Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag avec aujourd'hui, eh bien, évidemment, comme nous sommes vendredi, les livres de vos libraires indépendants du Lot. On vous dit ça dans la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, intéressons-nous au vélo dans la ville. Alors si à Cahors ça commence à se faire, on va dire, voir, remarquer si ça germe un petit peu grâce à un plan vélo, il y a un pays en Europe, le Danemark, eh ben, eux, le vélo, c'est même la reine, j'ai envie de dire. Et c'est une exposition qui est à voir en ce moment au cinéma de Cahors et on va en parler avec son créateur. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. L'année du Danemark à Cahors est l'occasion pour le Grand Cahors de proposer en partenariat avec le cinéma Le Grand Palais et le département du Lot une exposition dédiée à la promotion d'un urbanisme cyclable intitulé « Au vélo citoyen ». Ce rendez-vous, comme un préambule au passage du Tour de France qui part de Copenhague et passe à Cahors et dans le Lot en juillet prochain, s'intègre très naturellement dans le déploiement du plan vélo et circulation apaisée de la ville de Cahors et du Grand Cahors. Alors « Au vélo citoyen », c'est effectivement une célébration de la culture du cyclisme urbain profondément enracinée dans la société danoise. L'exposition créée par Michael Colville-Andersen, urbaniste, expert en mobilité urbaine, explore le cyclisme urbain à travers un prisme culturel, l'urbanisme et le design. Et évidemment, il est quand même le mieux placé pour nous parler de cette exposition et du vélo au Danemark.
This is everything you need. Any city in the world, the whole package to design.
Donc ici, vous avez dans cette exposition tout ce que vos élites ou vos élites politiques doivent étudier et regarder pour pouvoir mettre en place un projet urbain valable avec la bicyclette.
Est-ce que le Danemark, c'est le pays qui est en avance sur le vélo par rapport aux autres pays du monde?
The best country in the world is the Netherlands, Hollande.
Donc le pays le plus en avance, bien sûr, ce sont les Pays-Bas, mais ils ont une population très petite. Et ensuite, vous avez le Danemark, où il y a une grande intensité de cyclistes, mais parfois on oublie qu'il y a aussi le Japon, où il y a des bicyclettes et des voitures. Donc ensuite, vous avez l'Allemagne et la Suède.
And the France.
Bonne chance. I don't know the top 100, sorry.
Non, c'est pas dans les 100 premiers.
Alors comment ça se passe justement la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes en Danemark?
Most important is that we have a hierarchy of space.
Il y a plus d'espace.
Non,
au départ, on divise très bien l'espace.
If you are walking in this city or in Copenhagen, you know where to walk, right? Trottoir. In Denmark, we have the space for bicycles.
Parce que nous avons séparé les espaces. Il y a les espaces pour les bicyclettes et les espaces pour les voitures. Et les gens ne vont pas de l'un dans l'autre. Donc en fait, il y a plus de 100 ans qu'on a compris que les bicyclettes et les voitures ne peuvent pas vivre ensemble. Ce sont deux animaux différents. Et nous devons aussi séparer les cyclistes des piétons.
Mais alors, est-ce que vous vous êtes promené à Cahors?
Did you walk in Cahors?
Yes, I walked last night and today.
Oui, hier soir et aujourd'hui.
Alors, vous, en tant qu'urbaniste, comment, vous avez vu, les rues sont quand même très petites, comment on peut faire cohabiter ou la voiture et le vélo? Est-ce qu'il faudrait supprimer complètement la voiture?
If we need to find space to make life better in a city, something has to move, and that something is the automobile.
En fait, si on veut rendre la ville vivable, quelque chose doit se déplacer, et ce qui doit se déplacer, ce sont les voitures.
C'est radical.
It's not radical because so many cities are doing it now. Oslo, they are removing 7,000 parking spots. Amsterdam, 10,000. Paris, 65,000.
Donc les villes sont en train de supprimer les espaces de parking. Oslo, 7 000. Amsterdam, 10 000. Et Paris,
65 000.
Paris,
ouais.
65 000 places de parking vont sauter.
And the list goes on, and more and more.
Et la liste va être de plus en plus longue.
Et alors au Danemark, comment vous voyez les actions que fait la France, ou même Paris par exemple? À Paris, il y a une maire qui est beaucoup pour le vélo. Et comment on la voit au Danemark?
One of her best politician friends was the former mayor of Copenhagen in the C40 group.
Un de ses meilleurs amis était au Danemark dans la dans l'urbanisme des vélos.
C40 is a global organization for mayors.
La réunion mondiale des maires.
C40.
Yeah. Oui.
So she is very popular, and we know all of the amazing things that are happening in Paris. And right now,
et en ce moment, dans le monde, il y a deux villes à regarder parce qu'elle est très connue et très soutenue. Helsinki et Paris sont les deux villes qui sont en train de faire quelque chose pour le développement de la bicyclette.
Et dernière question, est-ce qu'en France on se donne les moyens d'y arriver?
The bicycle is the best business model in the history of transportation. It is also the cheapest thing you can do in order to save lives, improve health, make a city better.
Donc c'est le meilleur business model, je vais laisser en anglais hein, mais le modèle des affaires.
Business model.
Oui, pour avoir une vie de liberté, d'indépendance
and making a city better.
Et améliorer les villes.
Coming to Cahors for the first time. Every city in France is amazing. But it's like being in a time machine, traveling back to the 1950s regarding traffic.
Donc chaque ville est étonnante en France. Et c'est la première fois que je viens à Cahors.
For a long time today, I saw five bikes.
Si on regarde la circulation dans la ville de Cahors, j'ai eu l'impression de retourner 50 ans en arrière. Il se prend pour l'acteur dans Retour vers le futur. Aujourd'hui, j'ai marché toute la journée et je n'ai vu que 5 bicyclettes dans la ville.
But I went to the wrong decade and the wrong city.
Donc je suis allé dans la mauvaise ville au mauvais moment.
Oh bah vous nous souhaitez bonne chance alors.
You're wishing us good luck?
Of course. I mean, this was one of the world's great cycling nations. Like, if anybody should be able to do it again,
vous vous rendez compte que la France était un grand pays cycliste. Donc moi, je souhaite que la France redevienne un pays cycliste.
Like, you look behind me at this huge montage. It explains your history to you, the French, and how it is happening again. It is chronological from the many years ago until today. So you're on your way, but if we're trying to fight climate change, if we're trying to make lives better and fight obesity and all of these problems, we have the vaccine.
Donc notre vaccin pour lutter contre l'obésité, lutter contre le climat, le changement du climat, etc. Vous l'avez là, décrit là, et si vous savez voir, vous avez toute l'histoire et vous pouvez suivre.
Merci beaucoup.
Au vélo, citoyenne.
Donc vous l'avez compris, en France, on a encore beaucoup de boulot si on veut arriver à minima au même niveau que les Danois. Au vélo citoyen, c'est une exposition de Michael Colville-Andersen à voir au cinéma Le Grand Palais, Place Bessière à Cahors. L'entrée est libre et gratuite aux heures d'ouverture habituelles. Et dans le mag, comme chaque semaine, comme ça, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, on sait ce que l'on va lire, enfin, non, justement, des fois, on ne sait pas. Et heureusement, pour ça, il y a les libraires indépendants du Lot qui vous guident, et on est la librairie Caligramme qui les représente, et avec une nouvelle avec nous, qui est Felicity. Bonjour, Felicity.
Bonjour.
Qui es-tu ?
Je suis Felicity, je suis britannique, et je débarque dans le Lot, ça fait 2 ans. J'étais à Toulouse avant.
Ah oui, parce que tu parles quand même bien.
Non.
Ah oui, je pensais que tu avais débarqué.
Ça va faire une trentaine d'années que j'habite en France. Je suis arrivée quand j'avais 6 ans. Donc on va dire que je suis plus française qu'anglaise. Hein, mais,
ouais.
Mais voilà, j'ai quand même une nationalité britannique.
Et donc tu es libraire ici ?
Je suis libraire depuis maintenant un petit mois, oui. Voilà.
Bon, très bien.
Ouais.
Du coup, ils t'ont vite collé au jeu de la chronique radio. Désolé, c'est un peu le passage obligé quand on
c'est
est
ça.
Dans cette librairie.
Première expérience de radio, voilà.
Oh, et pas la dernière, t'inquiète. Alors, aujourd'hui, deux livres que tu vas nous présenter, une nouveauté, puis surtout un livre. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il n'est pas tout neuf, ce livre.
Non, le livre n'est pas tout neuf. D'ailleurs, mon exemplaire est jauni, ça se voit que je l'ai lu et relu.
Tu peux nous dire où tu l'as acheté ?
Au Secours Populaire de Souillac.
Et alors, pourquoi il t'a intéressé, ce livre-là?
Parce que j'ai déjà lu un livre d'elle. Donc, l'auteur, c'est Isabelle Allende. Elle vient du Chili. Son livre le plus connu, c'est La Maison aux Esprits, que j'ai adoré. Et là, je suis tombée sur son titre Paula. Donc, on voit en couverture... donc, c'est l'édition Livre de Poche, Fayard. On voit en couverture cette jeune femme qui est Paula. Donc, c'est la fille de l'auteur, l'autrice. Ah. Et toute l'histoire, en fait, c'est donc se passe autour de cette jeune femme qui, au début du livre, bon, je vous préviens tout de suite, le livre n'est pas gay. Hein. Au début du livre, cette jeune femme tombe dans le coma. Elle a une maladie assez rare. Donc, c'est une histoire vraie. Hein. Donc, la fille de l'autrice tombe dans le coma.
À quel âge, là?
Elle a une vingtaine d'années. Elle vient tout juste de se marier. En plus, c'est super triste. Voilà, c'est une jeune femme, en plus, qui est hyper belle et très généreuse. Et donc, l'histoire, c'est sa mère qui est à son chevet à l'hôpital, qui dit à son éditrice qu'elle est, elle se trouve incapable d'écrire. Elle pense pas pouvoir continuer son métier. Et donc, son éditrice, qui est aussi son amie, lui dit « Ce que tu devrais faire, c'est écrire une lettre à ta fille. » Et donc, elle commence par écrire une lettre. Oui, alors, c'est du lourd, hein, c'est du lourd.
Ouais, et puis surtout, quand on dit l'expression « C'est plus une lettre que tu nous m'écris, c'est un roman », bah là, on est en plein dedans, alors, du coup.
C'est exactement ça. Elle a commencé par vouloir dire à sa fille un peu ses origines, lui raconter d'où elle vient, d'où elle-même vient, donc remonter en avant. Et en fait, elle finit par écrire son autobiographie, et aussi forcément l'histoire de sa fille et comment elle arrive, comment elle en arrive à naître. Et donc, c'est un livre qui se lit en deux parties. On a le passage de la mère, l'autrice, qui veille sa fille, donc à la fois à l'hôpital et après quand il la transporte chez elle en Floride. Et on a toute cette partie au passé, donc qui est son autobiographie. Donc voilà, on a forcément, quand on entend Allende, on pense à Salvador Allende, donc toute sa partie politique, donc quand le triomphe du président, et après le putsch en 73, donc il y a toute cette partie-là, mais c'est pas du tout un livre historique, c'est un livre qui est très personnel, c'est vraiment sur la famille d'Isabelle, donc qui est la nièce de Salvador Allende, et c'est un texte qui est très intimiste, il y a beaucoup d'amour. On a des passages magnifiques sur le mari de la jeune femme Paula qui vient la veiller. Ils ont été mariés un an avant que la jeune femme tombe dans le coma. Donc son cœur est brisé, mais il est plein d'amour. Il y a beaucoup de passages sur l'art aussi, sur comment l'autrice est arrivée à écrire son premier livre. Et il y a aussi beaucoup de passages de magie. Donc cette Isabelle persuadée qu'elle peut rentrer en contact avec sa grand-mère morte à travers un miroir. On a toujours en permanence les fantômes de la famille qui sont là. Enfin, c'est hyper, c'est magique, c'est non sans. Enfin, ça rappelle un peu Gabriel Garcia Marquez dans le sens un peu réalisme magique du terme. Bref, c'est une saga hyper prenante et très très belle. Et forcément, bon, les mots d'espoir, enfin l'espoir de la mère que sa fille se réveille un jour, et puis les mots super tendres qu'elle a envers sa mère, moi j'ai pleuré plusieurs fois au long du livre. Donc c'est un livre qui est assez lourd, mais oui. Je pense que pour quelqu'un qui a dans son entourage quelqu'un de malade, c'est peut-être pas recommandé, mais en tout cas c'est un livre très prenant et très très beau. Elle a une belle plume, et voilà.
Et là, bon, parce que de toute façon on peut le dire, je pense que c'est pas l'objet du livre, elle se réveille ou pas?
C'est écrit sur la quatrième de couverture, moi j'aurais préféré qu'on me le dise pas, donc mais je crois qu'on a compris que non, hein.
Bah non, j'avais pas compris, non, justement. J'avais encore espoir, moi, en fait. Je dis peut-être que c'est
l'histoire. La première phrase de la quatrième couverture, c'est Paula, une jeune femme de 29 ans, donc elle a atteint d'une grave maladie, sombre dans le coma, elle mourra un an plus tard. Donc, quatrième de couverture, voilà. Donc, ça se passe sur un an. Moi, personnellement, j'avais pas envie que le monde le dise, peut-être qu'on peut.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur, c'est la manière dont ça se déroule.
C'est exactement ça. C'est la manière dont elle arrive à décliner ce récit sur deux parties, et surtout son histoire, son vécu est tout simplement incroyable, et voilà.
Alors c'est un livre quand même qui n'est pas tout jeune, qui date des années 90.
Cette traduction est sortie en 95, donc c'est des années 90, donc c'est pas un livre...
Mais on ne la retrouve plus, ce livre, si
Si, ah oui. Oui, moi je l'ai commandé sur Hotpi, bien sûr, oui.
Ah ouais, en livre de poche, on peut encore le commander.
Moi, je l'ai commandé pour la librairie, donc voilà, il est ici. Je me suis dit... Oui, c'est une auteure à succès. Hein. Donc, le livre a beau être corné et jauni.
Voilà. C'est Paula d'Isabelle Allendé aux éditions du livre de poche. Vous demandez à votre, libraire indépendant de le commander. Bon, on évite de lire ça quand le dimanche est pourri, qu'il pleut, quoi. Ouais. Hein, on essaye d'avoir du soleil, voilà, histoire, parce que sinon, on va se
prendre.
Bon
livre, quoi. Quand même.
Mais bon livre, oui, bien sûr, évidemment. J'ai toujours une petite blague à dire, mais là, je ne peux pas. C'est pas possible.
J'aime les choses tristes, moi.
Oui, façon, ah bah d'accord.
Il y a toujours la beauté dans la tristesse.
Mais... oui, mais enfin, quand même, ça promet, alors, d'accord. Et l'autre livre que tu nous as prévu, il est triste ou pas?
Non. C'est un... Alors, il est ni triste, ni vieux. C'est, il est sorti en poche.
À l'opposé total, là.
Oui, en mars 2022. Donc, c'est le Dit du Mistral d'Olivier Mac Bouchard aux éditions Le Tripode. Donc, il est récent. Il est sorti en poche 2022. Là, tout dernièrement. C'est un petit conte. Moi, j'ai beaucoup aimé la couverture. C'est une couverture un peu flashy, jolie, avec un petit chat qui a ses petites bottes noires. C'est un petit conte contemporain qui se passe dans le Luberon, en Provence. Le livre commence sur un bout de légende sur la création du Mistral le septième jour quand Dieu se repose. En fait, c'est tout un bout de légende.
Il
comme
souffle,
ça.
C'est comme ça, fait.
Pas exactement ça, mais bon, c'est des. Il demande, en fait, je me souviens plus, au dieu de lui donner quelque chose pour la Provence, et ils sortent le Mistral, et voilà. Et en fait, on comprend que, à partir de ce petit bout de légende, que les légendes sont hyper importantes dans ce récit. En fait, l'histoire, c'est le narrateur qui va avec sa femme et son chat. Donc le chat qui est sur la couverture, qui s'appelle le hussard, à cause de ses petites bottes noires, là. Le livre commence une veille d'orage, et son voisin, monsieur Sekaya, qui est un vieux provençal, vient lui dire qu'il y a un bout de son mur en pierre sèche qui s'est éboulé, et il a trouvé des tessons de poterie, des bouts de poterie, et il se dit que peut-être ça peut valoir quelque chose.
L'archéologie.
Mais le vieux voisin, lui, se dit, il veut pas être emmerdé par des archéologues, voilà, il veut pas qu'on vienne l'embêter, donc il se dit, moi je vais mettre un coup de bulldozer et on va cacher tout ça. Et puis bon, le voisin, le narrateur, il est quand même, il se dit, sa curiosité elle est piquée, il va voir, il voit ces poteries qui ont l'air bien vieilles quand même, on dirait des poteries gauloises, etc. Donc il arrive à dissuader son voisin et ils vont faire des fouilles, en fait, des fouilles à deux, des fouilles illégales, et ils sortent des fragments de poterie qui, en les reconstituant, ça forme des objets énigmatiques, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Puis il continue à fouiller et il commence à trouver des pierres en angle droit qui ont clairement été taillées par l'homme. Et là, voilà.
Ça commence à se compliquer, là.
Il découvre des choses. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, vous allez, je vais vraiment vous spoiler le livre. Mais donc, c'est un petit livre qui est super intéressant sur le plan intergénérationnel, le rapport entre le narrateur qui est un peu jeune et son voisin qui a une épouse qui a Alzheimer, et donc toutes les choses qu'ils vont faire pour eux. Mais surtout, en fait, on est vraiment dans l'univers d'Alphonse Daudet et de Jean Giono, très provençal, en fait. On sent que l'auteur, il adore sa région. Il y a des très belles descriptions de la Provence, et même son langage, en fait, il y a beaucoup de notes en bas de page, parce que c'est écrit en provençal, en fait.
Ah, oh là là, en patois.
Ouais. Oh, mais c'est bien. Beau. Et moi, j'ai grandi dans la Provence, donc ça m'a forcément touchée.
Je regarde, je devine un petit mot patois, là.
Ouais.
Comme dirait Jean-Jacques Goldman, patois. Bon, c'est une blague pourrie. Comment on dit pas très malin en patois, je me refère au numéro 59, on dit qu'il soit empégué.
Empégué, ouais.
Ah, d'accord.
Moi, ça me parle direct.
Ah bon ?
Ouais. On dit aussi quand t'es un peu fatigué le matin, quand t'es pas bien réveillé, t'es empégué toi ce matin.
Ah d'accord, ok.
Ouais.
Alors,
c'est tout un langage. Alors, c'est l'anglaise qui parle provençal, je sais.
Oui, c'est ça qui m'étonne. si la mare bouillissi 13 euros, les ouvripounes de Pessoun Kuech. Alors, fais-moi la maline.
Là, c'est carrément du patois.
voilà, ça veut dire si la mer bouillait 3 heures, on y trouverait des poissons cuits. Bah oui, forcément, évidemment.
Il y a plein de petites expressions. Alors, je pense que, ça peut parler à toutes les personnes qui sont de cette région, ou si les personnes qui s'intéressent un peu, à la... à cette culture.
Quel rôle il a, le chat? Parce que s'il est en couverture, c'est qu'il a un rôle, quand
ouais,
même.
Ouais, ben non, pas vraiment.
Ah d'accord, c'est juste parce qu'il aime son chat, quoi.
Voilà, si, c'est un personnage à part entière, mais il a pas de rôle spécifique. Si ce n'est que... On peut croire que c'est lui un peu qui les mène au site archéologique, parce que pendant qu'il y a l'orage, il danse dans l'orage, et c'est un peu pour ça qu'ils sortent et qu'ils trouvent le...
C'est qui a fait l'illustration? Parce que là...
Elle est jolie.
Ah oui. Ah bon?
Ouais. Ah non? Ouais, je trouvais... Ouais. J'ai été attirée par la couverture, en fait. Elle est très colorée.
Ouais, ouais. Bah, le chat... Bon. D'accord. Chacun ses goûts.
Chacun ses goûts. Et du coup, voilà, la fin, c'est un petit virage fantastique à la fin. On s'y attend pas du tout. Où il y a carrément... Le Mistral, il devient un personnage du roman. Voilà, c'est assez inattendu. Mais de toute façon, ces éditions-là, ils sortent souvent des choses un peu animistes, un peu ovnis. Mais voilà, c'est un livre... un beau petit livre, un beau petit conte.
Météor 40, la maison d'édition?
Les Tripodes.
Les Tripodes, ah ouais. D'accord. Je ne voyais pas où c'était écrit, c'est pour ça. Le dit du Mistral par Olivier Mac Bouchard. Donc c'est un livre de poche,
ouais.
Voilà, roman. Donc à découvrir, si vous voulez savoir pourquoi le petit chat il est en couverture avec ses petites pattes noires, eh ben, vous serez dans ce livre qui vous est conseillé par Felicity de la librairie Calligramme. Et au nom des libraires du Lot, ils sont 7. Donc très important, libraire indépendant. Hein. Indépendant, on a dit. Ils sont 7 dans le Lot, et ben ils vous attendent évidemment. Bon ben merci pour une première, ça va?
Ouais, ça va.
Bon bah,
merci
bien. Bah, tu reviendras alors.
Bah avec plaisir.
De toute façon t'as pas le choix, ça fait partie
de contrat
de travail. Nathalie elle a dit non, elle est obligée, c'est obligé. Il me semble d'ailleurs que dans l'entretien d'embauche c'était c'était dit. Hein, c'est...
Non justement. C'était...
Elle te l'avait pas dit?
Non, je l'ai dit.
Ah ouais, c'est traître ça. C'est tout Nathalie ça. Merci, à bientôt, Felicity.
À bientôt, merci.
Samedi, soirée, même journée électro, grâce à l'association Renard et au doc de Cahors. Et du coup, ça se passe dès l'après-midi en entrée libre dans la cour des docs de Cahors. Il y a même de quoi se restaurer. Je peux vous dire que l'association Renard a commencé à préparer les frites qu'ils ont faites, qui sont faites maison avec de vraies pommes de terre, hein, qu'ils ont épluchées de leurs petits doigts entre deux enchaînements de disques. Bref, une belle journée qui vous attend. Et puis le soir, eh bien, Kabylie Minogue, Psatek et maintenant les Lotois que nous entendons en dessous qui s'appellent Two Suspect, qui sont là, et j'en profite pour vous dire maintenant, pendant la musique, allez sur la page Facebook CFM Radio, il y a une publication là-dessus, commentez-la, likez-la, et le tirage au sort se fera juste après, pour gagner vos entrées évidemment à la soirée, au Doc de Cahors, à la soirée Résonance, soirée électro. Two Suspect en live avec samedi soir au Doc de Cahors avec Psatek et Kabylie Minogue évidemment, et puis n'oubliez pas d'y aller aussi l'après-midi, et vous avez une demi-heure devant vous encore puisque le tirage au sort aura lieu à 13h. Notre page Facebook cfmradio.fr, vous commentez ce que l'on la publication qui concerne cette soirée, vous likez aussi, et on espère pour vous, vous gagnerez vos places pour cette soirée de samedi soir à 21h au Doc de Cahors. C'est maintenant, le tirage au sort c'est à 13h, donc j'insiste. Oui, bah oui, je sais, j'insiste, mais c'est normal, c'est parce que c'est maintenant que ça se fait. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Oui, parce que même sur la publication, si j'ai marqué tirage au sort à midi, non, c'est à 13h, donc vous avez encore vraiment une bonne demi-heure devant vous. Merci d'avoir écouté ce mag que vous allez pouvoir écouter en rediff à 17h et 21h30 et en podcast sur cfmradio.fr dans un instant le journal.